the ones who really love you. Walk up and down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Hard against some mad buggy's wall.
Radio Canu présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La confusion des hommes. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Thank you. À mon commandement, en posée. Ah !
Desjardins. C'était donc cela.
Merci, on n'est pas dit de le baïonner.
Ah, c'est de sa faute. Il n'arrêtait pas de poser des coups.
Dis-moi, c'est à quelle heure au juste?
Pas avant le jour, c'est la loi.
Décembre 1851, fusillade des boulevards, 100 morts, mouvement de protestation. L'aspect social des révoltes favorise le ralliement de la bourgeoisie au bonapartisme. Le 21 décembre 1851, plébiscite approuvant le coup d'État. Le temps passe. Le temps passe, Hubert a repris sa vie normalement. Il continue à regarder avec dédain ses semblables, mais d'une façon plus philosophique. Il travaille toujours, surveille sa famille pour essayer de voir ce que cache leur homme, attend que sa femme fasse un faux pas pour lui sauter dessus. Pour ce qui est de son fils, il le prend pour un malade, un fou, qui terminera ses jours en asile. Sa fille ne sait quoi penser. Elle est tantôt révolutionnaire, tantôt jeune fille à marier. Donc, tout va pour le mieux pour lui. Un jour, il reçoit une lettre où il y a simplement décrit dessus « La malle vous sera livrée sous peu chez vous. Un ami qui vous veut du bien. » Surpris, ne s'entendait pas à cela. À tout, mais pas à cela. Cette histoire est vieille pour lui. Il panique malgré son sang-froid habituel. Met la lettre dans sa poche et va s'enfermer dans son bureau. Là, il fait 100 pas dans son bureau en réfléchissant.
Qui a bien pu me voir cette nuit-là ? D'un maître chanteur.
Il étouffe, décide de sortir. Dehors, le bruit de la rue l'étourdit. Il essaye malgré tout de réfléchir.
Une chose est sûre, c'est que je ne me la laisserai pas faire.
Au bout d'un moment, il s'en retourne et rentre chez lui. Première chose qu'il voit en entrant chez lui, dans le hall d'entrée, sa femme et un domestique avec des outils qui essayent d'ouvrir la malle. Sa femme est debout qui attend. Il a un choc, se reprend et fonce sur le domestique. Trop tard, la malle est ouverte. Lui et sa femme se penchent. Elle est vide. Il est rouge de stupeur. Sa femme lui demande
« Qu'est-ce que c'est que cette malle qu'on a livrée pour toi ? Tu as acheté une malle vide ?»
Le père se relève furieux et dit au domestique
« Montez la malle au grenier !»
Le domestique s'exécute. Père dit à sa femme,
ce n'est rien, une malle vide.
Et il va à son bureau.
On va me faire chanter.
Un moment plus tard, il fait venir le domestique à son bureau.
Entrez.
Et lui demande,
qui vous a livré cette malle ?
Monsieur, c'est le fiacre de la maison des deux Lambert. J'ai reconnu le domestique et les armoiries sur le fiacre. Il renvoie le domestique de la main. Reste sceptique.
Je ne connais pas cette maison. Qui sont ces gens-là ? Que viennent-ils faire dans cette affaire ? Il faut que je me renseigne. J'irai au ministère de l'Intérieur.
Hibert est très connu par les gens du pouvoir en place et à ses entrées dans tous les ministères. Il se renseigne, On lui dit que ce sont des gens très influents, des hauts magistrats qui travaillent étroitement avec le cabinet ministériel et les banques pour aider le nouveau gouvernement à avoir l'appui des financiers. Ils lui donnent l'adresse de leur hôtel particulier. Après avoir eu ces renseignements, Hubert ne sait que faire. Marche en réfléchissant au bois de Boulogne. Ne sait que faire, car il sait que si ce sont des gens influents, il est perdu.
Dois-je fuir ? Non, je suis tout aussi fort qu'eux. Le monde, la morale n'a pas pris sur moi.
Mais cela ne l'empêche pas d'être inquiet et de passer des nuits blanches. Alors, un matin, il décide d'aller chez D'Alembert. Ils habitent un hôtel particulier à Versailles. C'est une demeure de style Louis XV. Arrivé devant la maison, il ne sait que faire.
Que vais-je leur dire ? Que je viens de la banque pour leur proposer des actions sur les chemins de fer ? S'ils veulent me faire chanter, je saurai me défendre.
Il sonne. Lui a ouvert un valet.
Je suis Hubert d'Argenteuil. J'aimerais voir Monsieur D'Alembert.
Il donne sa carte. Domestique lui dit.
La famille est absente, monsieur. Il n'y a que l'aïeul.
Bien, menez-moi à lui.
Je ne sais pas, monsieur.
C'est pour une affaire d'argent. Je représente la banque.
Bien, monsieur. Veuillez rentrer. Domestique le mène dans un dédale de couloir, puis ouvre une porte et entre. Puis est ressorti et dit « Monsieur veut bien vous recevoir » et fait rentrer Hubert. Après l'avoir annoncé, c'est un jardin d'hiver. Un homme est assis dans un fauteuil en osier. Il est très maigre, grand, raide, les cheveux blancs, est habillé d'une robe de chambre. Le vieil homme lui demande
« Vous désirez, monsieur ? Je suis Hubert d'Argenteuil et j'étais venu à tout hasard vous proposer des actions des chemins de fer à votre famille, je suis de la banque. »
Le vieil homme lui coupe la parole.
Mon fils est absent. Il n'y a que moi dans cette maison. Ils sont partis pour longtemps. Un mois. Ils reviendront quand ? Je ne puis vous le dire. Cela dépend des affaires qu'ils vont faire en Suède avec les deux Rothschild de Suède. Bon,
dit Hubert déçu. Puis se dit qu'il doit se renseigner.
Savez-vous qui est la personne qui m'a envoyé une malle vide chez moi ?
Une malle vide ?
Non, personne. Pourquoi voulez-vous me posez-vous cette question?
Parce que mon domestique me dit que la malle a été livrée par un de vos valets qu'il connaît et qui est venu avec une voiture qui a vos armoiries.
Je ne suis pas au courant.
Aucun domestique de cette santé, je le saurai. N'avez-vous pas d'autres membres de votre famille qui auraient des voitures comme la vôtre?
Non, notre famille a été décimée par la Révolution.
La vraie.
Il ne reste que nous. Hubert déçu.
Bien, je vais vous laisser. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir, monsieur le comte.
Vous ne m'avez pas du tout dérangé, monsieur. Au revoir. Et Hubert sort, mais reste sceptique. En traversant la rue pour entrer chez lui, un fiacre fit la vive allure. Il a failli le renverser. Il a tout juste le temps de se mettre le cul sur le côté. Mais il a pu voir sur la portière du fiacre les armoiries du D'Alembert. Il rentre chez lui secoué. Plein de questions.
Que me vaut-on? Cherche-t-on à me faire chanter ma mort? Qu'on l'ait à l'ampère avec mon histoire.
Il n'y a personne. Il entre au salon. Et là, apparaît un tableau admirable. Une fille, une jeune fille, assise sur une chaise, lit un livre. Elle est blonde, les cheveux longs qui ondulent, un visage fin, délicat, avec de grands yeux bleus. La taille fine et grande, est habillée d'une robe beige pâle. Il est ébloui par elle. Elle lève la tête et le voit, les surprises. Elle fait tomber son livre à terre.
Qui êtes-vous, mademoiselle?
Je suis Émilie Granger, une amie de votre fille. Il est tellement ébloui par elle qu'il oublie tout. Entre dans son corps une passion.
Ma fille est absente, mais si vous voulez attendre, elle ne va pas tarder.
Il va s'asseoir en face d'elle.
Je suis le père de Camille. Vous désirez boire quelque chose?
Non, merci.
Vous connaissez ma fille depuis longtemps?
Quelques années déjà. Nous étions en pension.
Ah!
La porte s'est ouverte. Camille accourt vers eux. Bonjour. Excuse-moi, Émilie, de mon retard. Mais j'étais avec ma mère faire des courses. Il y avait fou dans les magasins. Et Émilie se lève, elle s'embrasse. Camille dit, viens, avant d'aller au bois, je vais te montrer quelques partitions pour le piano. Et elles vont vers la sortie. Le père se lève, toujours sur le charme.
Au revoir, mademoiselle.
Une fois qu'elles sont parties, il est tout excité. Marche dans la pièce en pensant à elle.
Quelle jeune fille délicieuse! Qui est-elle? Que fait-elle? Reviendra-t-elle? Oh! Sûrement, elles ont l'air de bien s'entendre.
Les jours passent. Il ne pense qu'à la jeune fille qu'il n'a vue qu'une fois. Il attend qu'elle revienne, l'aime comme un collégien, en oublie presque sa famille. Un jour, un domestique lui demande « Où faut-il mettre la molle que monsieur a reçue ?»
Il ne s'en souvient plus de celle-là. Il est agacé. Il l'empêche de rêver en paix. Oui, cette molle, cette horrible molle, qui est un présage de malheur. Que faut-il en faire ? Cachez-la n'importe où.
Après-midi, il voit arriver Émilie. Le domestique la fait rentrer au salon. Il y entre. Elle se lève à son entrée.
Bonjour, mademoiselle.
Bonjour, monsieur. La porte d'entrée vient de s'ouvrir. C'est Camille. Émilie, bonjour. Camille accourt vers elle. Elle s'embrasse et part. Il est triste et excité. Un autre après-midi, elle est au salon. Il y va.
Bonjour, mademoiselle.
Bonjour, monsieur.
Vous désirez boire quelque chose? Du thé?
Oui, je veux bien. J'ai soif. Il somme pour se faire apporter du thé.
Entrez. Du thé, s'il vous plaît.
Il va s'asseoir à côté d'elle. Tout excité.
Vous attendez ma fille?
Oui, monsieur. Nous allons faire les magasins, j'ai besoin de tissus. Il lui sourit.
Vous vivez avec votre mère?
Oui.
Seul?
Oui, mon père est mort il y a de cela 8 ans et nous laisse sans argent, ma mère et moi. Une tante nous aide un peu. C'est elle qui a payé ma pension.
Ma pauvre petite, elle ne doit pas être bien drôle pour vous.
Oh, que non, monsieur. Surtout deux femmes seules sans protecteur. Des malveillants cherchent des proies faciles comme nous. Nous sommes constamment en train de nous défendre.
Vous n'avez pas d'amis?
Non, monsieur.
Entrez.
Apporter le thé.
Vous n'avez pas de fiancée, d'amis qui pourraient vous aider?
Elle baisse la tête et dit non, nous ne sortons jamais. Et qui voudrait d'une jeune fille comme moi, sans dot? Il se met à penser pendant quelques secondes à son fils. Elle serait dans la famille, il l'aurait toujours près d'elle. Il lui dit
désormais, vous ne serez plus seul. Je serai là.
Elle lui sourit, lui dit « Merci, monsieur. » Puis, il lui sert le thé.
Hubert est de plus en plus fou d'Émilie. Il ne peut vivre un seul jour sans la voir. Mais les jours passent et ne la voit pas venir. Il demande à sa fille.
Ton ami ne vient plus te voir.
Elle est partie se reposer avec sa mère et sa tante en Bourgogne. Cette nouvelle l'attriste, ne supporte pas son départ. Reste enfermée des journées entières dans sa chambre à penser à elle.
Je veux la revoir. J'étouffe.
Il prend la décision d'aller la rejoindre. Il sait que sa fille a reçu une lettre d'Émilie. Il va dans sa chambre. Pour lire la lettre et savoir où elle se trouve, il va ouvrir le tiroir de son secrétaire. Il a retrouvé la lettre dans le tiroir. La lit. Prend un bout de papier, une plume, pour recopier l'adresse, puis sort de la chambre. Pendant le dîner, il dit à sa femme,
« Je dois partir demain matin pour affaires. »
Le lendemain, il part en diligence. Mais, une fois arrivé là-bas, près de la maison, une vieille maison bourgeoise au fond d'un parc, se trouvait tout, ne sachant que faire.
Puisque je suis ici, je n'en vais pas retourner.
Il trouve à louer dans le bourg d'à côté une chambre au-dessus du café. C'est pas très confortable, mais pour quelques jours cela suffit. Et puis ses idées, son âme ont d'autres préoccupations. Ils sont près de la jeune fille. Il est près de la jeune fille. Comme un fou, matin et soir, il se promène dans les environs de la maison. Il est comme hypnotisé par la maison et marche en la regardant, se promène en faisant le tour de son parc. Là, comme de la fièvre, il s'imagine des rencontres, alors qu'il sait que s'il voyait la jeune fille, il serait paniqué et se sauverait. Les jours passent, la maison où se trouve la jeune fille lui semble sans vie. Les jours passent. Un après-midi, alors qu'il marche, la tête baissée dans ses pensées, sur le chemin qui entoure la maison, à un tournant, il entend des pas. Lève la tête et la voit. Paniqué, il se sauve. Mais elle l'a vu et court vers lui. Monsieur d'Argenteuil, Monsieur d'Argenteuil. Elle lui court après. Il se trouve idiot, s'arrête, se retourne, est derrière lui. Quelle surprise, Monsieur d'Argenteuil. Mais que faites-vous ici? Il rougit. Tant pis, il se lance.
Je suis venu vous voir.
Et surprise, moi?
Oui, vous, je vous aime. Voilà, je ne peux plus vivre sans vous. Alors je suis venu.
Elle rougit paniquée.
Ah, non, mais...
Et s'enfuit. Elle s'enfuit. Il reste au chemin penaud. Puis, tu cries. Avant qu'elle n'entre dans la propriété.
Je viens chaque jour ici. Je vais retourner à la maison.
Elle entre en courant. Il s'éloigne les larmes aux yeux. Il se dit,
elle ne voudra plus me revoir après ce que je lui ai dit. Tu n'es qu'un imbécile. Tu lui as fait peur.
Il s'en veut. Rentrée chez elle, essoufflée, elle monte à sa chambre pour reprendre ses esprits. La pièce est grande, simple, les meubles sont robustes, campagnards, ça sent la cire. Elle va s'asseoir sur le rebord du lit. Pose la main sur son front. C'est la première fois qu'un homme lui fait la cour. C'est un homme marié et riche. Que faire? Que dire? Oui, bien sûr, il est gentil, a l'air très épris et pourrait l'aider. Je suis de l'âge de sa fille. À la longue, il pourrait m'aimer comme sa fille. Mais non, idiote, tu rêves. Si je refuse son affection, je perds un protecteur, un brave protecteur, qui m'aime tellement qu'il accepterait tous mes caprices. Que faire? Après une journée de réflexion, elle décide d'accepter ses gentillesses. Lendemain après-midi, elle part à sa recherche en faisant le tour de la propriété. Enfin, elle le voit. Il va dans sa direction. Lorsqu'il l'a vu, il hésite. Elle lui dit, « Monsieur, j'accepte votre amitié, à condition que vous soyez sage. » Il est fou de joie, il ne sait que dire. « Mais,
merci, je suis plus heureux des hommes. »
Ils font quelques pas ensemble. Ils sont si intimidés qu'ils n'osent se parler et se regardent. Puis elle lui dit, nous verrons à Paris, ici nous ne pourrons pas nous voir. Pensez à ma respectabilité, vous êtes un homme marié, vous savez.
Oui, vous avez raison, je vais vous quitter. Comment ferons-nous à Paris?
Je reviendrai voir votre fille et nous donnerons un rendez-vous. Au revoir monsieur, et elle le quitte. Il la quitte heureux, mais surpris par son sang-froid.
On penserait qu'elle a souvent eu à résoudre ce genre de problème.
Thank you.
et il part heureux tout de même pour Paris le lendemain matin. Heureux de quitter l'endroit aussi désert et triste, car il n'aime pas la nature. À Paris, il est fou de joie, il oublie sa famille, ne s'occupe plus de sa femme. Il attend avec impatience qu'Émilie lui fasse signe. Pendant ce temps, sa femme continue à organiser des soirées, à sortir avec sa fille ou seule pour aller voir les pauvres de la paroisse. Un jour, la mère et la fille vont visiter un étudiant qui vit seul et est malade. Il habite un vieil immeuble au dernier étage. L'allée est triste, sale, et les escaliers du dernier étage sont en bois. La mère et la fille montent essoufflées avec un panier chacune de nourriture et de linge. La mère frappe à une porte en bois. Elle est renforcée par une planche pour cacher les trous. Leur a ouvert un jeune homme d'une vingtaine d'années, grand, maigre, blond, les yeux bleus très pâles, visage fiévreux. Il est en chemise et pantalon, semble tenir à peine debout. La mère est éblouie par ce visage, avec ses grands yeux. Il ressemble à une apparition, à un ange. Il a un côté irréel. Elle lui dit « Bonjour, nous sommes venus, ma fille et moi, vous apporter quelques provisions et venir à votre aide, vous aider. » Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle dit. Elle tremble toute. « Je vous remercie. » Et il les fait rentrer. La mère voit qu'il tient à peine debout.
« Faut vous coucher. Vous tenez à peine. Vous devez avoir de la fièvre. »
Elle le maintient jusqu'au lit pour le coucher sur le petit lit de bois. La mère dit
« Ne bougez plus. Nous allons nous occuper de tout. »
Elle regarde autour d'elle. La pièce est petite et mansardée. Un poêle à bois au milieu de la pièce, une petite table de bois, deux chaises, une vieille commode sans âge et le lit. Pas de rideau fenêtre. Sur les murs, du papier peint noirci de suie et d'humidité. Le sol, un parquet sans couleur, délavé. Elle se lève pour aller vers la table. Qui est rempli de livres, se fait une petite place pour vider son sac de provisions. Et dire à sa fille d'en faire autant.
Nous allons vous préparer un bouillon et une tisane.
Et dire à sa fille.
Va voir le poêle, rallume-le s'il est éteint. Nous brûlerons des papiers.
La mère et la fille s'affairent. Tout en préparant le bouillon, allant chercher de l'eau et coupant les légumes, elle regarde à dérober le jeune homme étendu. Qui ne bouge pas. Après lui avoir donné à manger, à la cuillère, la mère émue, troublée, lui essuie le visage avec un mouchoir. Il est en sueur. Puis elle lui dit qu'elle reviendra le voir demain après-midi et elles sortent. Armande est rouge de honte. En descendant les escaliers, elle regarde sa fille pour voir si elle s'est aperçue de son trouble. Mais non, la fille n'a rien vu. Elle a aidé sa mère mécaniquement, sans réfléchir. Armande est dans sa chambre, en déshabillé, devant sa coiffeuse, se préparant pour la nuit. Elle trouve ridicule le trouble qu'elle a eu.
Il pourrait être mon fils, c'est stupide.
Une fois donné un coup de peigne, elle se couche. La nuit est hantée par le visage du jeune homme, cela l'empêche de dormir.
Pourquoi suis-je troublée par lui? Est-ce à cause de Charles?
Son premier amour. Elle avait 18 et lui 20. La famille ne voulait pas qu'il se fréquente. Et puis, il est mort bêtement sur un champ de bataille. Et on a présenté à la jeune fille Hubert. Le lendemain après-midi, la mère et la fille retournent chez le jeune homme, Hervé Devert. La mère tremble un peu et a peur de dévoiler son trouble. Les deux femmes lui font le feu, préparent à manger, nettoient un peu. La mère lui demande
« Vous avez de la famille ?»«
Oui, en Bourgogne. Mais elle ne peut m'aider. C'est le curé du village qui paie mes études. »
Et lui touche le front.
« Vous avez encore peu de fièvre. Restez au lit. »
Elle ose à peine le regarder. Et pour mettre une barrière entre eux, elle lui dit
« Au revoir, mon enfant. »
Et elles sortent. Il va tous les jours voir le jeune homme. Hervé lui observe les deux femmes aller venir chez lui. Il est surpris par tout ce qu'elles font pour lui. C'est plus que de la charité. Elles vont même jusqu'à laver son linge. La vieuse trouve très belle Camille, mais elle ne fait pas attention à lui. Un jour, la mère surprend les regards d'Hervé sur Camille. Malgré elle encore, elle devient jalouse de sa fille. Elle ne se rend pas compte que c'est la preuve qu'elle l'aime. Il ressemble tellement à son premier amour, peut-être plus fin, plus tendre. Cela la chance d'aimer une personne qui est plus faible qu'elle. Elle est de plus en plus attirée par Camille, mais n'ose pas le lui parler parce qu'il y a la mère. La mère voit qu'il ne fait pas attention à elle. C'est à Camille qui va tous ses regards, même si elle ne fait rien. La mère aime être seule, la voir tout à elle. Mais cela est impossible. Une femme mariée n'a pas le droit d'aller chez un homme seul. Elle prend un grand plaisir à lui laver le visage. Et le seul contact qu'elle peut avoir avec lui. Et encore avec un mouchoir, une serviette ou un gant. Se pencher vers lui pour le laver. Lui donne le vertige. Elle aimerait plonger. La nuit, elle a des rêves. Hervé est au fond de l'eau. Elle plonge. Camille ne se rend pas compte du trouble qu'elle fait à Hervé.
Elle le regarde à peine. La mère regarde, attend avec impatience le temps où il sera guéri.
Il n'aura plus. Je n'aurai plus de prétexte pour le voir. Déjà m'ont dit à la réunion de la paroisse que j'en fais trop. Mon Dieu, j'en fais trop. Pour lui, c'est pas possible.
À chaque fois qu'elle va le voir, elle s'habille d'une nouvelle toilette et se parfume beaucoup, mais toujours du même parfum pour qu'il puisse la reconnaître. Elle lui apporte des linges, des lainages en laine, quelques chemises que son mari ne met plus, un vieux manteau. C'est elle-même qui prépare avec amour les colis et même la nourriture. Sa fille, un jour, lui a offert un livre de vers de Lamartine. Il l'a pris. Il lui a dit « Merci, cela me fait très plaisir, surtout venant de vous. » Il a le livre à la main qu'il touche amoureusement. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La confusion des hommes, dont c'était la 7e partie, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.